présence, le grand entretien.
Et oui, on prend de la hauteur, on prend l'air aussi, hein, puisque je vous emmène en montagne au poste de secours de Gavarnie, découvrir le quotidien des secouristes à ski, par les airs, en escaladant les parois ou en avançant dans les profondeurs des glaciers. Ils sont mus par un désir, la passion de sauver. C'est ce qu'écrit Pascal Sanchot dans un récit haletant qui vient de sortir. Bonjour Pascal Sanchot.
Bonjour.
Votre livre revient sur les 30 années que vous avez passées comme secouriste dans les unités CRS de la police nationale entre les Alpes et les Pyrénées. Il s'intitule « Bravo papa », c'est aux éditions Mareuil. Et bah, il va tout de suite falloir nous dire hein, à quoi fait allusion ce titre.
Alors le titre, si jamais on respecte vraiment le titre à la lettre, c'est un indicatif radio qui nous reliait pendant de nombreuses années à l'hélicoptère de la gendarmerie qui était une Alouette 3. Et c'est aussi un petit clin d'œil à mes enfants.
Et oui, qui devaient être fiers de vous et qui ont eu mis l'occasion de vous le dire probablement.
Oui, souvent il y a des non-dits qui en disent plus long que des grands discours, mais c'est vrai que quand on a fait un métier un petit peu de cette nature, avec pas mal de prises de risques, c'est peut-être ce qu'on attend un petit peu dans le regard ou dans la bouche de ses enfants.
Et oui, vous faites bien de le préciser, un métier hors du commun, hein. Bravo papa, on a envie de vous dire bravo Pascal tout simplement. Hein. Dans les premiers chapitres de votre livre, qu'on va feuilleter ensemble, hein, vous vous étendez sur la formation très difficile, on le comprend assez facilement pour le coup, très difficile qu'il vous a fallu suivre pour devenir guide puis secouriste. C'est une formation que vous avez effectuée au sein de la police nationale. Alors on le voit, certains, il y a des déçus, hein, certains sont recalés, d'autres voient leurs rêves aboutir, puisque c'est bien de rêves dont il s'agit. En tout cas, pour vous, c'était le cas. Comment il est né, ce désir? Comment est-ce qu'on rêve de devenir secouriste de haute montagne?
Ben, c'est difficile à dire en parlant pour les autres. Je pense que chacun a son
pour
chemin.
Vous.
Moi, pour moi, ça a été une révélation. D'abord, j'ai découvert la montagne avec ma famille, avec mon oncle en particulier.
Ah, oui.
Et ensuite, je suis tombé en admiration devant une photo où je voyais un hélicoptère qui treuillait un gars dans la vallée de Chamonix. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire, quoi. Donc, c'est parti de là.
Et ça, c'était quoi à vos yeux? Qu'est-ce qui vous attirait? C'est la montagne, vous dites dans votre livre, toujours attiré par le haut, étant enfant. C'est les grands espaces, c'est quoi?
Je pense qu'au début, il y a d'abord l'amour de la montagne, il y a cette notion quand même esthétique, et puis après, je pense qu'il y a cette envie d'aller vers l'autre et de donner vraiment un sens profond à sa vie en rentrant dans l'activité du secours, qui est quand même une activité très particulière et qui dépasse largement après le cadre esthétique ou le cadre sportif oui. d'une pratique montagnarde.
Est-ce qu'il y a aussi le goût, probablement, hein, les sensations extrêmes? Vous côtoyez en permanence les éléments parfois hostiles. À certains moments dans votre livre, vous parlez de l'ascension d'une cascade, vous en parlez comme un combat dangereux et difficile. Et puis, il y a cette adrénaline aussi toujours présente. Hein, les grandes ascensions, écrivez-vous, les missions de sauvetage font s'écouler dans nos veines un torrent de bien-être dont il est difficile de se passer ensuite. L'adrénaline, c'est ça aussi qui vous tient?
Alors, ça nous permet d'avancer, ça c'est clair. Après, c'est pas une recherche vraiment à la base parce qu'on sait pas vraiment ce qu'on va ressentir. Moi, j'étais vraiment attiré d'abord par cette idée de faire du secours en montagne. Et après, effectivement, l'adrénaline, ben, nous alimente au quotidien. Elle nous donne parfois du courage ou nous donne aussi de l'audace quand il faut toujours avoir un temps d'avance sur ce qui va nous être proposer. Oui, c'est sûr qu'une fois qu'on est dans cette activité, ça devient un peu une drogue, ça c'est évident.
Ça devient une drogue. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous pouvez nous raconter votre première opération de secours? Je crois que c'est en 1986, vous le racontez dans le livre, on est sur un crash d'avion.
Ah oui, celle-là, c'était quand même très particulier parce que quand on se lance dans ce métier, bon, on a un petit peu imaginé les secours, donc on se voit dans des situations certes techniques, mais plutôt sauver des gens qu'aller ramasser des personnes qui sont en mauvais état ou ce coup, c'était quand même 4 personnes décédées sur un crash d'avion qu'on découvre sanglées encore sur leur siège. Là, la prise de contact lors du premier secours a été assez violente. Parce qu'on se rend compte qu'on va être dans une activité où on aura face à nous parfois des situations hyper difficiles et qu'il va falloir rapidement y trouver un sens. Et moi, je ne m'étais pas obligatoirement préparé à ça. Et c'est vrai que c'est un secours qui m'a mis dans le vif du sujet immédiatement. Et hormis les difficultés que l'on peut ressentir face à la mort, parce que là, il n'y a pas de formation, c'est vrai qu'on est obligé de rapidement de trouver un sens à quelle est notre utilité dans ce contexte-là. Et donc là, les anciens jouent un rôle important et on se rend compte après, au fil du temps, que voilà, accompagner des familles dans le deuil, et ça sera malheureusement fréquemment le cas, revêt une importance aussi marquée qu'aller sauver des vies parfois.
Oui, c'est ce que vous dites, hein. Rapporter un corps, rapporter une dépouille, ça donne aussi du sens et ça permet aux familles de faire leur deuil, c'est ça?
Mais oui, je pense qu'il n'y a rien de pire que de ne pas retrouver une personne qui aurait pu tomber dans une crevasse ou qui s'est perdue et qu'on n'arrive pas à localiser. Ça, c'est terrible pour faire un deuil. Et c'est vrai que dans ce domaine-là, on a quand même une action fondamentale.
Delta, Charlie, Delta, DCD. On ressent quoi quand on entend ces trois lettres? Elles résonnent très difficilement dans votre livre.
Ben, disons que la première fois, c'est assez destructeur parce que là, on y perd un peu tous ses moyens. Et puis après, ben c'est malheureusement, hein, c'est quand même, ou heureusement parce qu'on se protège, mais c'est quand même un métier, on fait avec, on construit petit à petit une carapace qui fait que lorsqu'on est en intervention, voilà, on se concentre uniquement sur ce qu'on a à faire et on évacue tout ce qui est notion, d'émotion dans un premier temps, quoi. Il faut pas se laisser submerger, sinon on ne pourrait pas, effectuer la mission comme on doit la faire.
D'autant que vous êtes confronté évidemment de temps en temps et à la mort des personnes secourues, la dangerosité des opérations, elle vous concerne également au premier chef. Hein. Je crois que vous dites hein, quelque part dans votre livre que c'est des opérations d'une telle dangerosité que vous avez amenées que votre métier compte plus de disparitions que les unités d'élite du RAID ou du GIGN. Et d'ailleurs, dans votre livre, hein, vous parlez de la tragédie de l'Arbison où vous perdez un ami secouriste, là aussi dans le crash de son avion. Alors, heureusement, dans votre livre, il y a aussi, et surtout, j'ai envie de dire, des belles histoires, des beaux moments de personnes secourues, et notamment lorsque ce sont des enfants que vous secourez. Là, c'est tout particulier, hein.
Ah oui, c'est vrai que la relation à l'enfance, ben là aussi, je crois qu'elle nous ramène à notre statut de parent souvent. Donc, dès l'instant qu'il y a une alerte vis-à-vis d'un gamin, c'est vrai qu'on a, oui, on peut dire un supplément d'âme parce que ben, on aimerait que ça finisse bien, on aimerait les protéger. Donc, on s'inscrit quand même dans une mission un peu particulière avec une tension qui est différente. Et c'est vrai que voilà, par générosité, on aimerait que ça se passe bien, quoi.
Et d'ailleurs, à cette occasion, vous poussez un petit coup de gueule dans votre livre pour les drames qui pourraient être évités si la sécurité était mieux respectée. Ils sont ces drames, le manque de sécurité est à l'origine de beaucoup de drames en montagne.
Alors, sur la pratique de la montagne, globalement, c'est comme vous et moi, quand on arrive dans un milieu qu'on ne connaît pas, on peut vraiment se faire piéger sans avoir obligatoirement eu un comportement d'imprudence ou en ayant fait volontairement des choses qu'il ne fallait pas faire. Je crois que c'est vraiment parce que les gens ne connaissent pas le milieu souvent, parce qu'ils n'ont pas pris la peine ou ils n'ont même pas pensé de se renseigner en pensant que ça pouvait être dangereux. Parce qu'en montagne, on ne rencontre pas que des personnes bloquées dans une grande paroi. On a beaucoup de bobologie, entre guillemets, sur des chemins accessibles. Donc, c'est pas obligatoirement des imprudences caractérisées, mais c'est la découverte in situ d'un milieu qui reste hostile. Et puis, quand on est victime d'une simple entorse à la cheville à 2 ou 3 heures de marche d'un village, ça pose de suite des problèmes.
Est-ce qu'on est secouriste en montagne à temps plein? On fait quoi hors saison touristique?
Ah ben nous, le secours en montagne, comme vous l'avez dit en préambule, ça touche toutes les activités. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'en montagne, il y a du monde toute l'année. Alors, ça va être bientôt le ski, en espérant qu'on puisse sortir, le ski de randonnée, la raquette. Ensuite, on va passer sur l'escalade, va arriver la période estivale avec toutes les activités outdoor, randonnée, alpinisme, il y aura du canyon. Donc, même si notre activité est quand même liée au pic de fréquentation touristique, on a du monde toute l'année.
Alors, il y a un thème très fort hein, qui sous-tend beaucoup de pages de votre livre, c'est évidemment la force du groupe. C'est presque une ode au collectif, on a le sentiment, hein, le secourisme en montagne. Vous dites à certains moments, ici plus qu'ailleurs, notre destinée se conjugue au pluriel. Le « nous » est toujours plus grand qu'un jeu insipide et sans âme.
Mais ça, c'est quelque chose qu'on découvre aussi, parce que quand on est formé à ce métier, on arrive, jeune loup, là, on se sent des ailes, donc on est d'un niveau technique assez élevé, on pense qu'on peut tout casser, et puis petit à petit, on se rend compte qu'il n'y a pas que l'aspect technique dans notre métier, l'aspect humain est important. Donc déjà, pour réaliser des missions, c'est vrai que parfois, je dirais même toujours, on est quand même plus fort à deux ou à trois que quand on est seul. Et puis c'est quand même un métier où la vie collective est très prégnante, elle nous aide à passer des moments difficiles, et on se côtoie beaucoup plus presque qu'avec nos épouses, donc il y a une complicité qui naît, le collectif c'est quand même fort, quoi. Donc des fois c'est difficile, hein. On peut ne pas être d'accord, on peut se chamailler, mais je veux dire, il en reste toujours quelque chose d'important, et c'est vrai que pour nous c'est quand même... C'est quand même la base, le groupe, je pense. C'est là où on trouve la force. Je pense que la capacité individuelle, elle vient se greffer à un collectif. C'est ce qui fait la force d'un groupe, et pas l'inverse.
Et alors, il y a aussi le poids des anciens. Vous en avez dit un mot tout à l'heure. Hein. Quand on devient secouriste, on a le sentiment, à vous lire, hein, qu'on entre dans une sorte de tradition de héros qui ont ouvert la voie avant vous. Chaque intention, écrivez-vous, chaque geste en montagne nous est transmis. Nous nous inscrivons dans le respect de nos anciens. Et c'est étonnant, ça aussi. Hein.
Mais ça, je crois que c'est vraiment lié à l'humilité du montagnard, parce que là, il n'y a pas de héros, justement, on est tous sauf des héros, c'est que des personnes motivées, bien formées, entraînées, et puis capables d'aller au bout de leur engagement. Donc là, il n'y a pas du tout de notion de héros, et on rentre dans la philosophie ou dans l'état d'esprit du montagnard, c'est-à-dire beaucoup d'humilité et de respect. Donc l'humilité par rapport au milieu, ça c'est une évidence, hein. On est quand même petit face à l'élément naturel. Et puis moi, j'avais vraiment, même si au quotidien, on le dit pas obligatoirement vis-à-vis des anciens, mais il y a quand même cette forme de respect au final qui fait que si on a vécu une carrière aussi intense, ben on leur doit beaucoup. C'est quand même eux qui ont défriché le chemin, quoi. Ils ont trouvé des techniques, ils se sont engagés en mettant en place des moyens comme l'hélicoptère, souvent à grand fracas. Donc oui, je trouvais vraiment... légitime, et puis ça m'a paru vraiment naturel de leur rendre hommage.
Vous dites on n'est pas des héros. Vous n'avez pas la sensation d'avoir pendant 30 années mis votre courage, votre force physique au service de plus grands que vous, et vous n'avez pas le sentiment du coup d'avoir été héroïque ?
Non, absolument pas. Ça, on rentre dans la mythologie. Là, on est des professionnels. Alors après, on a des qualités, bien sûr, hein, mais... le mythe du héros, c'est pas pour nous. Je crois qu'on est passionné par un métier, on le fait à fond, on se donne complètement, quitte à ne pas en revenir parfois. Et c'est pas héroïque. Après, peut-être que les gens nous voient comme ça, mais on a nos qualités, nos faiblesses. Je pense qu'on est très bien formé à la base. Il y a un recrutement qui est quand même difficile. Donc les gens qui arrivent dans ce métier et qui y restent, parce qu'il faut durer. Sont des gens qui ont donné à travers cette activité un sens profond à leur vie. Et le fait aussi, hein, moi je le dis sincèrement, le fait d'avoir pris des risques pour les autres, je pense que moi en tout cas, ça m'a fortifié, quoi. Ça me donne une idée de la vie qui est assez précise et qui vous donne l'envie de vivre chaque moment à fond, parce qu'on se rend bien compte que ça peut s'arrêter très vite.
Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes que vos exploits, malgré tout, ont sauvées ?
Je vous donnerai une fourchette. Je suis pas dans la comptabilité, puis c'est quelque chose qui m'importait peu, quoi. J'écris peut-être un tome 2 là, de Bravo Papa, et hier j'essayais d'y penser. J'arrive à peine à me souvenir des fois sur des journées très intenses du nombre de secours. Donc sur une carrière, c'est compliqué, mais je dirais entre peut-être 800 et 1000 interventions.
Ah oui, tout de même. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Pascal Sancho. Je vous invite, vous qui nous écoutez, à vous plonger dans ce livre. Ça s'appelle Bravo, papa. C'est aux éditions Mareuil. Un frisson garanti. Ça permet de prendre de la hauteur, de découvrir ces héros méconnus que sont les secouristes en montagne. Un grand merci, Pascal Sancho.
Merci à vous.